On va parler des films qui sont sortis ce mercredi. On va commencer par le Wes Anderson, Laurent, The French Dispatch, qui met en scène un recueil d'histoires tiré du dernier numéro d'un magazine américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle. Une sorte d'hommage très chic à cette revue, le New Yorker. Trois histoires truffées de références, lisibles peut-être par le seul Wes Anderson, avec des tas d'acteurs connus dans le cadre, coincés dans les décors, un peu comme des maquettes, ces décors, et les acteurs un peu comme des marionnettes, figées dans le formol d'une nostalgie, mais laquelle? Celle de mai 68 dans un deuxième sketch assez abscon et finalement très ennuyeux. Reste à observer pour passer le temps ce cabinet de curiosité et dire bravo aux décorateurs.
Oui, il me semble que c'est la caricature du cinéma de Wes Anderson par lui-même. Alors il y a du burlesque, de l'ironie, de l'humour écrit et souvent surjoué d'ailleurs. C'est du bizarre, vous avez dit bizarre, érigé en règle du jeu. Alors, et le spectateur progressivement s'asphyxie devant tant d'auto-références et presque d'auto-satisfaction devant cet océan d'incongruité sans queue ni tête. Voilà, c'est le système Anderson, mais ici, il tourne non pas à vide, mais à circuit fermé. Allez, chut, on le laisse tout seul.
Enfin, ceux qui l'aiment, ils iront voir le film.
Je suis pas certain. Un
film iranien, Le Pardon, de Mariam Mokadam. Iran, de nos jours, la vie de Mina est bouleversée lorsque son mari est condamné à mort. Imagine. Elle se retrouve seule avec leur fille à élever. Un an plus tard, elle est convoquée par les autorités qui lui apprennent qu'il était innocent. Alors que sa vie est à nouveau ébranlée, un homme mystérieux vient frapper à sa porte. Il prétend être un ami du défunt et avoir une dette envers lui. Un film réquisitoire sur la justice en Iran. Est-ce à dire qu'il arrive trop tard? Peut-être bien après les films de Faraday et surtout avant ce film de Rasoulov, Le Diable n'existe pas.
Oui, alors, bon, mettons...
La loi.
Pardon?
La loi de Téhéran.
Oui, la loi,
et
de,
la loi
Téhéran.
De Téhéran. Alors bon,
bien sûr,
c'est vrai. Il faut mettre de côté ces deux derniers films là. Mais je mettrai pas de côté Faraday parce que moi justement, ça m'a semblé
faradien.
Une bouffée d'air dans le système Faraday parce que franchement, on en a un peu.
Enfin, moi, j'en ai un peu
ras-le-bol.
Moins de ramifications.
Mais exactement, c'est moins ça. De scénarios tricotés à l'infini. Ouais. D'ailleurs, le propre, c'est que l'histoire part à la limite là où ça se termine chez Faraday, c'est-à-dire que ça remonte. La décision est déjà prise ici et comme un coup près sans jeu de mots, donc c'est ça qui est très intéressant. Et du coup effectivement les thèmes faradiens, le pardon, la recherche de la rédemption, le rachat, tout ça, ça devient une façon de les revisiter qui est très intéressante. Petite chose aussi, c'est que les hommes vus à travers ce film, c'est vraiment quelque chose de très très dur pour la virilité, mais c'est pas plus mal, c'est
ouais.
Bien.
La fracture de Catherine Corsini, deux femmes, Raph et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un service d'urgence proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne de gilets jaunes et elles vont rencontrer Yann, un manifestant blessé et en colère. Voilà pour le pitch. Au travers d'une fiction, la réalisatrice ausculte la colère en France, celle des gilets jaunes associée à celle de l'hôpital au bord du gouffre, dans une unité de temps, une nuit, de lieu, l'hôpital. Quant à l'action, elle est multiple, mais pourquoi charger la barque à ce point et multiplier les péripéties avec notamment une prise d'otage totalement superflue et qui noie un sujet déjà fort en soi. Quant à la rencontre de ces deux mondes, on frise parfois la caricature, surtout dans le discours de Yann, censé représenter les gilets jaunes, réduit à pas mal de naïveté, Laurent.
Oui, alors on va être révérend dans un premier temps, traité du réel, de l'histoire immédiate. Bravo, le cinéma français ne le fait certainement pas assez. C'est une vraie prise de risque. C'est donc il faut acter ça et le dire à Catherine Corsini. On prend acte, d'accord. Mais il faut aussi juger du résultat. Bon, ben le résultat, c'est que effectivement, on est dans une série de clichés sur les classes sociales françaises. On est dans un manque de caricature, de complexité absolue. Depuis la bobo jouée en bobo folding par Brunetti, qui jusqu'à Pio Marmaille en gilet jaune, grande gueule, là aussi on a l'impression d'un manque de complexité totale.
Qui pense qu'il y a un tunnel pour aller à l'Elysée.
Ben absolument, et alors du coup il y a une morale quand même qui est d'une gentillesse à faire peur, hein, parce qu'il suffirait donc de se parler pour que ça aille mieux entre nous. Vraiment, quand on croit à la lutte des classes, quand on croit à ça, on se dit que ce serait juste une affaire de com. Moi, j'en suis pas tout à fait certain.
Quant à l'image de fin, sans la révéler, elle interroge vraiment et prouve que ces deux femmes-là n'ont rien compris à ce qu'elles viennent de vivre et ce qui nous a été démontré dans le film. Bon, Las Niñas, c'est un film espagnol de Pilar Palomero, 1992. C'est sur une jeune fille de 11 ans qui vit avec sa mère à Saragosse et étudie dans un collège pour filles dirigées par des religieuses jusqu'à l'arrivée de Brisa, une nouvelle camarade, Laurent.
Oui, alors c'est un premier film hein, au format carré, intéressant cinématographiquement. Le passage à l'adolescence, mon Dieu, on se dit, hein, ça a déjà été un peu traité, non, beaucoup même. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne justement un film intéressant parce que même dans ce champ-là, la réalisatrice arrive à dire des choses intéressantes ou en tout cas à montrer des choses intéressantes, à saisir des moments de ce passage, de cette transition, avec notamment un casting extraordinaire au premier rang d'entre la jeune fille Célia qui a 11 ans et qui est au centre de ce film. Alors c'est vrai.
Andrea Fondos, elle s'appelle.
Absolument, oui, vous avez raison de la citer. Ce serait du Kriakouaros du temps de la démocratie, mais ça reste assez vénéneux. Et avec un côté absolument crucial dans ce que ça dit sur la jeunesse.
Lui, de Guillaume Canet, un compositeur en mal d'inspiration qui vient de quitter femme et enfant, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu'un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à le laisser en paix. Pourquoi le titre lui ? Bien, parce qu'ils sont deux, Guillaume Canet, lui et l'autre. Celui qui trompe sa femme, laquelle débarque avec sa maîtresse à lui, on dirait d'oublier, mais sans les dialogues qui fusent.
Ouais, c'est ça. Sort de ce corps, Bertrand, parce qu'effectivement, ou de ce film en tous les cas, et à force de s'auto-analyser sauvagement, encore que Guillaume Canet, ça en devient ultra complaisant à l'égard de lui-même.
Il en ça aurait pu s'appeler Moi, le film d'ailleurs.
Exactement. Moi il en moi. Oublie absolument le spectateur. Et est-ce que vraiment la question fondamentale qui est la difficulté de choisir entre Laetitia Casta et Virginie Efira, c'est vraiment à l'ordre de nos jours.
Dans Rock'n'Roll, ils étaient déjà allongés, hein. Mais c'était beaucoup plus drôle. C'était beaucoup plus drôle, le Rock'n'Roll. Auray, c'est un film turc de Mehmet Akif Buyukatalay. Lors d'une dispute, Auray répète 3 fois le mot talak à sa femme Burku, ce qui, dans la loi islamique, signifie la répudiation.
Oui, alors c'est un premier film qui a été distingué à Berlin pour ce statut. Donc, il a eu le prix du meilleur premier film, un film d'un réalisateur allemand d'origine turque sur un homme allemand d'origine turque. Voilà, c'est posé comme ça. C'est une description très subtile, très fine, dans la façon dont une religion s'arroge en quelque sorte le droit de donner à chacun une identité. Seulement, cette identité doit impérativement se fondre et se dissoudre dans une identité collective religieuse. Ça porte cet enjeu-là et ça montre finalement l'histoire d'un emprisonnement personnel et individuel progressif dans des lieux qui sont des appartements qui se réduisent petit à petit et pour une mosquée qui devient tentaculaire.
Et enfin ce documentaire, Le Périmètre de Kamsé de Olivier Zucua, dans le nord du Burkina Faso, la désertification grignote les terres et un groupe de femmes décide d'aller contre cela.
Oui, c'est un très très beau documentaire parce que ça montre une façon de lutter contre la nature, de lutter contre le poids de ce qui va se passer, et alors avec un format en scope et des plans larges et fixes, c'est-à-dire une cinématographie qui refuse l'idée qu'il faudrait filmer salement en quelque sorte presque la misère et la difficulté des temps. Donc il y a une attention portée du coup aux hommes inscrits dans ces paysages-là qui est magnifique.
Sinon, résultat des courses, comme les critiques n'étaient pas très très bonnes, on va conseiller d'aller voir Julie en 12 chapitres de Joachim Trier, Illusion perdue, Xavier Giannoli, et bien sûr mercredi prochain le film de Jacques Audiard, oui. Olympiade.
Bien voilà. Sûr, on dit aussi, parce qu'on l'a oublié, que Van Gogh ressort en salle et que c'est le merveilleux film de Maurice Pialat en forme d'autoportrait. Et puis une interrogation, mais pourquoi donc le merveilleux film de Kelly Reichardt, First Co, n'est absolument pas visible à Lille, hein, j'ai pas dit dans une ville de moins de 10 000 habitants, à Lille. Pourquoi ce film n'est pas visible à Lille? Il y a quand même en France des mystères de distribution de films. Jacques Audiard, je pense que vous en serez d'accord. Voilà. Et puis on... Et puis on fête aussi en ce moment les 50 ans du Saint-André-des-Arts, le cinéma mythique dans lequel on a découvert à Paris dans les années 70, Tanner, Souter, Lautz, etc., avec un livre reflet chez l'Harmattan.
On a très peu de temps pour les cadeaux.
Allez, on passe au cadeau. Jacques Audiard, pour vous, un certain Django, de Sergio Corbucci, chez Carlotta, évidemment, l'homme qui se trimballe avec son cercueil. C'est un merveilleux film.
Oui, bien, hein.
Bien sûr, avec 4 documentaires en bonus et un des films préférés, évidemment, du certain Tarantino. Pour vous, Léa Missius, un peu de lecture. Ben, vous voyez, scénarios.
C'est génial.
Les scénarios d'un certain Michel Audiard, 3 scénarios, Mélodie en sous-sol.
Et Albert Simonin, comme présentation, comme édition de Franck Lomo.
Voilà.
Ça envoie du bois.
Institut Lumière, Acte Sud. À lire et à relire avec un bonheur absolu. Et puis pour vous, chers amis acteurs, d'abord pour vous, Génile, une actrice, une certaine Simone Signoret, Le jour et l'heure, dans un film de René Clément, et c'est chez Gaumont, merveilleux Blu-ray. Et pour vous, ce Yves Montand, hein, après Signoret, normal, La guerre est finie d'Alain René, magnifique film, deux films de résistance.
On est trop gâtés,
c'est Noël. C'est nous qui sommes gâtés,
c'est Noël
pour ces Olympiades.